Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Partir ou rester? Face à la catastrophe, face à un danger mortel, face à un avenir incertain. Faire face ou fuir? Ce dilemme auquel l'humanité est confrontée lorsque surviennent les déluges, les calamités, les cataclysmes, a nourri de nombreux mythes depuis la nuit des temps. Ces moments de rupture frappent l'imaginaire et nous poussent aux limites. Laurent Petit-Mangin nous rend visite aujourd'hui pour son dernier roman, Les Terres Animales, paru aux éditions La Manufacture de Livres. Dans ce roman, ils sont quelques-uns à avoir décidé de rester malgré la catastrophe, malgré une menace invisible. Laurent Petit-Mangin se met comme toujours à hauteur d'hommes et de femmes. Loin des grands principes et des concepts abstraits, ces personnages sont pétris de fragilité, de contradictions, d'indécision et de grandeur. C'est la raison pour laquelle nous aurons, j'en suis sûr, plaisir à passer cette heure ensemble. Bonjour Laurent Petit-Mangin.
Bonjour Christophe.
Merci d'avoir accepté notre invitation à Parole d'auteur. Vous étiez encore aujourd'hui, ce matin, à Foix, dans le cadre des rencontres intitulées « Les passagers du livre ». Et nous vous attrapons au passage. Il s'agit donc de votre troisième roman et je prends souvent le parti dans cette émission de débuter, avant de faire plus avant connaissance, de se plonger directement dans le livre qui nous réunit autour de ces micros. Et en général, c'est à travers lui que nous faisons connaissance avec l'auteur. Alors, en guise de question introductive, je vous demanderai où nous nous trouvons dès les premières pages de ce roman qui parle, qui est Fred.
Nous nous trouvons dans un massif bleu, beau, mais profondément hostile désormais à l'homme, puisque c'est un massif qui a été irradié à la suite d'un accident nucléaire. Fred fait partie des quelques personnes qui ont décidé de rester dans cette zone. Ils sont cinq. Principalement cinq amis, deux couples et un cinquième larron qui ont décidé de continuer de vivre sur ce territoire. Pour Fred et Sarah, son épouse, on le comprend tout de suite, on le comprend dès la deuxième page puisque leur petite fille est enterrée là. Pour les trois autres, c'est un peu moins évident, mais disons que par amitié, ces cinq vont décider d'essayer de reconstruire une vie sur cette zone, encore une fois, qui est normalement impropre à la vie désormais.
En effet. Et donc ces cinq-là, mais ils sont plus parce qu'on aperçoit au cours du récit qu'il y a une vingtaine, on est dans une vallée, donc il y a eu cette catastrophe. Et donc j'aimerais savoir, vous les appelez comment ces gens qui sont là? C'est des survivants, c'est des victimes, c'est des inconscients, des têtes de mule, des jusque-boutistes?
Non, je crois que précisément, mais comme d'ailleurs vous l'avez dit dans l'introduction, j'avais pas du tout envie de décrire des personnes qui soient aguerries à ce type de situation, et d'ailleurs qui peut l'être réellement. J'avais envie de dépeindre des personnes finalement assez classiques, ma foi. Donc ce sont des gens qui ont eu une idée, c'est presque, il y a un petit côté utopiste à ça. Alors utopiste dans une zone radioactive, c'est quand même une gageure, mais il y a un peu de ça. Il y a cet aspect de personnes peut-être un peu fatiguées aussi, peut-être qu'on le découvrira au travers du livre. Il y a à la fois beaucoup d'énergie chez ces cinq, mais il y a peut-être aussi de la fatigue, donc c'est un mélange de ça. Mais au final, si je devais répondre à votre question, ce sont quand même des gens tout à fait lambda au démarrage. Rien ne les prédisposait à vivre ainsi.
Et à vivre ainsi dans un endroit où vous dites... La radiation est de 500 millisieverts, 10 fois Fukushima. Donc, mais pourquoi rester? C'est la question lancinante. Et surtout, on est déjà, quand on rencontre Fred dès les premières pages, on est déjà à 2 ans de cette, on peut pas parler d'expérience, mais de cette décision. Et il va falloir faire durer cette décision dans la durée.
Oui, alors ils essaient de reconstruire une vie. Bon, quand même en se protégeant, je veux dire, ils ne sont pas inconscients au point de vivre sans protection dans une telle zone. Donc ils se sont construits tous les sas, ils se protègent, ils ne sortent qu'en combinaison. Bon. Et cette vie, ma foi, elle se construit à partir d'un certain nombre de choses préemptées sur les maisons qui ont été abandonnées. Et ils estiment ainsi avoir encore 3 ans facilement pour vivre sur cette zone. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont persuadés de pouvoir tenir plus longtemps. Mais bon, disons que raisonnablement, ils se fixent déjà cet objectif de 3 ans. Alors, encore une fois, ça peut paraître fou en l'énonçant ainsi. Mais bon, ils y gagnent aussi beaucoup de choses. Ils y gagnent une totale liberté de pensée et d'action. Ils sont désormais libres. Plus personne, je dirais, ne leur impose quoi que ce soit. Ils sont libres de leur vie. Et je pense que ça aussi leur plaît énormément. Encore une fois, au démarrage, c'était un acte de ne pas quitter cette terre. Il y avait vraiment quelque chose de très, très profond, de très fort, et encore une fois, en tout cas, pour ce couple. Et au fur et à mesure, ça devient une aventure qu'ils se créent à eux cinq. Bon, et effectivement, il y a d'autres petits groupes qui cohabitent dans ce massif. Il y a notamment, à quelques kilomètres de là, des petits vieux qui n'ont pas voulu quitter leur terre en disant que c'était trop tard.
Il y a un médecin aussi.
Oui, il y a un médecin qui opère en tablier Truffaut. Il a plus de blues et bon, mais c'est un médecin. On sait très bien qu'il va pas tenir très 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 longtemps. Et il semble un petit peu dépassé lui aussi.
Mais au cours du récit, c'est pas vraiment une Robinsonnade où on va se préoccuper, je dirais, de la matérialité de la survie. Alors bien sûr, il faut quand même aller puiser de l'essence dans une cuve qu'on a mis là, en se disant... Mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'échéance à 3 ans. C'est plutôt, au cours du récit, les relations qui vont se tisser, se faire et se défaire, peut-être, entre ces personnages.
Si oui, c'est évidemment que le sujet du roman... et d'ailleurs bien longtemps avant que je ne l'écrive, c'était cette histoire d'amitié et cette amitié assez trouble, ma foi, entre deux couples. C'est-à-dire ce sont deux couples qui s'admirent et il y a une fascination de l'autre couple sur l'autre, enfin d'un couple sur l'autre. Donc c'est une amitié qui est à la fois très belle, je trouve, et qui a quand même sa part de trouble. Donc c'était ça vraiment effectivement le moteur du roman. Mmh. Après, je pense quand même que pour toute la première partie du roman, il y a bien ce côté un peu Robinsonnade. Enfin, en tout cas, moi je l'ai écrit vraiment avec énormément de plaisir et quasiment comme si j'étais en train d'écrire une histoire que j'aurais aimé lire enfant. C'est-à-dire un peu à l'image de ces histoires de Jules Verne où, vous voyez, des 2 ans de vacances à l'île mystérieuse où vous êtes projeté comme ça sur une île et il faut reconstruire une société. Donc c'est quelque chose, je pense, de très, très enfantin. De vouloir se recréer son monde, son cocon. Moi, en tout cas, pour la première partie du livre, j'ai eu plaisir, finalement, à recréer ça avec eux, chaque soir, en me disant, comment on mange dans telle situation, comment on se divertit, quels sont les loisirs de ces 5 personnes. Donc, parce qu'il y a quand même encore des loisirs, finalement. Ça peut paraître insensé, mais ces 5-là continuent d'avoir quelques loisirs, ma foi.
Oui, il faut faire, faut donner du sens à cette communauté. Surtout, ils sont très différents. Vous avez Lorna, par exemple, enfin Anne-Lorraine, hein, qui deviendra Lorna, c'est d'une famille noble qui a fait agro, qui est un peu en rupture. Hein. On a l'impression qu'il y a des cassures. Alors, ils amènent aussi, dans ce temps d'après, ils amènent tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, vous l'avez dit, la mort d'une enfant, mais toute leur biographie.
Oui, bon, Lorna est peut-être mon personnage préféré des cinq. C'est vraiment une femme que j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment... Et d'ailleurs, pour tout vous dire, quand j'ai terminé ce texte, j'ai été incroyablement triste en me disant, bon, ben voilà...
Je la quitte.
Je quitte Lorna, oui. Il y avait un peu de ça. Donc c'est quelqu'un qui est effectivement bon tout en rupture avec son milieu, mais enfin et pourtant elle garde quand même des traits de ce milieu d'origine. Bon, il y a et c'est ça que je trouve beau chez elle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois c'est très contrasté. Il y a beaucoup de contradictions chez Lorna et ma foi, bon, bah, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle en fait. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire ainsi.
Et elle est mariée avec Marc, un entrepreneur artisan plutôt cossu. Hein, il avait 12 employés. Et Marc est ami. Là aussi, il y a cette amitié qui précède l'accident et entre Fred, le narrateur. Puisque c'est des voix alternantes, hein. C'est d'abord Fred, puis ensuite son épouse qui parle de façon alternante dans votre roman. Et j'aimerais, si vous m'autorisez, lire un petit passage sur cette amitié, parce que vous dites que c'est une histoire d'amitié entre les cinq, mais je veux dire, à la racine de cette amitié, c'est aussi l'amitié entre Marc et Fred. Avec Fred, on se connaît depuis l'enfance. Je ne crois pas me souvenir que nous étions particulièrement amis au début, et notre chanson de geste, sauf à vouloir la rendre plus belle, qu'un aide ne devrait relater aucun des 400 coups qu'on lit d'habitude dans les livres. On n'a ni volé, ni risqué la mort. Je ne me souviens pas que nous nous soyons jamais échangé le sang, ni n'ayons promis ou commis quoi que ce soit de grand ou de sublime. Et un peu plus loin, une amitié simple donc, dont rien ne pouvait prédire la durée ni l'intensité. Ce n'était pas sauver la vie, on ne s'était pas sauvé la vie, on ne s'était pas battu pour la même fille, et d'ailleurs, on avait accepté assez facilement notre séparation quand il avait fallu aller au lycée pour moi, en apprentissage pour lui. Je crois qu'on ne s'attendait à rien et il n'y avait donc pas lieu d'être déçu ni surpris ni inquiet par l'arrêt momentané qui s'est définitif de nos rencontres. Cela rentrait dans l'ordre des choses. Ni lui, ni moi n'étions des rebelles. Nous n'avions pas une once de révolte. Un très beau passage. Et je rebondis un peu sur le mot révolte parce que ce qui me frappe chez vos personnages, ils ne se révoltent pas. Ils sont surveillés par des drones. On a électrifié toute une zone où ils ont accepté de rester. Voilà, et il n'y a pas vraiment de révolte.
Oui, mais l'électrification n'est pas contre eux. Hein. Elle est juste pour empêcher que d'autres personnes ne rentrent. Bon, disons qu'eux, on les tolère dans ce grand massif. C'est-à-dire que le monde extérieur ne leur est pas hostile, hein, et d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas du tout un texte, je dirais, post-apocalyptique que j'ai voulu écrire du tout. En fait, bon, j'avais besoin d'avoir une zone, d'avoir un huis clos, et donc il est constitué par cette zone qui est, ma foi, effectivement, barriérée et un peu surveillée, mais elle est surveillée encore une fois aussi, bah, parce que bon, bah, les autorités veulent voir si comment évolue tout ça, comment évolue cette nature, comment évolue la radioactivité. Donc oui, ils ne sont pas rebelles et on en revient à ça, c'est-à-dire que les personnes que j'ai voulu dépeindre sont avaient des vies bon relativement classiques, des vies bon qui avaient leur part de drames, d'énormes drames, hein, puisque bon quand même ce couple a perdu son enfant, mais je veux dire voilà quoi, c'était des amis qui vivaient là tranquillement et oui, rien ne pouvait préfigurer ça quoi, préfigurer cette espèce de vie totalement folle dans un monde désormais hostile.
Ils sont tenus par le serment malgré tout. Et donc, ils vont continuer à vivre, à aimer, à douter, peut-être à se tromper ou à tromper les autres. Voilà, c'est tout. Alors, on ne va pas révéler ce qui va se passer, hein, évidemment, parce que c'est tout le sel et tout l'intérêt de ce livre. Mais la vie, les relations vont se poursuivre après l'accident. Et c'est une zone où on meurt, parce qu'il y a des étrangers, hein, les Ouzbeks qui arrivent, etc. Il y a une colonie juste à côté de peuplement qui vient. Enfin, ils rentrent en interaction, c'est très intéressant. Dans cette zone, on meurt, on vit, et on survit, mais est-il raisonnable de naître, de faire venir un enfant ?
Ça c'est toute la question qui vient vraiment bousculer le livre, qui honnêtement d'ailleurs est venu bousculer mon écriture aussi, puisque encore une fois là, autant la première partie était une partie très apaisée finalement, presque trop à un moment d'ailleurs, j'ai enlevé quelques volontairement beaucoup de paragraphes, beaucoup de chapitres, en me disant bon, c'est une partie qui est trop facile, trop apaisée, il faut maintenant créer la tension et le désordre. Et donc effectivement cette question d'une possible naissance vient créer le trouble, vient rompre cet équilibre qu'ils avaient réussi à mettre en œuvre.
C'est ce qui fait vraiment.
Mais je dois dire que quand j'ai démarré le livre, je ne savais pas.
Ah bon ?
Non, je n'avais aucune idée j'avais évidemment en tête le fait qu'il allait certainement avoir une rupture, un déséquilibre dans cette amitié. J'imaginais bien qu'il allait falloir tester finalement cette amitié, mais je n'avais aucune idée de comment cette fracture allait arriver. Donc voilà. Et finalement, ça m'a presque pris autant par surprise. Bon, alors évidemment, je veux dire, on est quand même maître de ce qu'on écrit, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est venu à la fois de façon très naturelle et à un moment en se disant, mais voilà, c'est bien sûr, c'est ça qui va les questionner.
D'accord. On laissera à nos lecteurs, que j'invite vraiment à lire votre livre, découvrir tout cet enjeu. Et je vais revenir à des choses peut-être un peu triviales, mais est-ce que l'écriture de ce roman a changé, modifié vos convictions concernant l'énergie nucléaire? Et est-ce que, voilà, parce que vous êtes, on n'est pas très loin en âge, moi j'ai vécu Tchernobyl en 86, Fukushima en 2011, j'ai le souvenir de ces événements. Alors c'est pas du tout l'enjeu du livre, hein, c'est pas un livre politique, militant, etc. Mais voilà, j'ai cru comprendre d'ailleurs que la naissance de cette idée dans une zone... c'est à la vie, quand vous avez vu quelque chose, enfin,
j'ai écouté un reportage sur des personnes âgées qui voulaient à tout prix rester aux abords, voire dans la zone de Fukushima. Et c'est un très beau reportage, parce que c'est un reportage de fait de silence et en même temps de compteur Geiger. Donc c'était un.
Ça crépite aussi dans votre
monde. C'était un drôle de. C'était une ambiance tout à fait incroyable. Et c'est effectivement ça qui m'a conduit à écrire mon histoire d'amitié dans cette zone. Quant au nucléaire, honnêtement, je pense que le roman dit ce que j'en pense, il dit l'effroi. Il dit que, en fait, ce nucléaire, j'ai de longs débats à la maison avec mes quatre enfants, qui sont plutôt pour les trois garçons des ingénieurs, donc ils sont plutôt pour le nucléaire, en se disant que c'est un moindre mal. Je veux bien comprendre ça. Bon, moi, il y a l'aspect de l'accident qui me terrifie. Et effectivement, l'accident de... pas tant chez Tchernobyl, je pense que j'ai pas tellement réagi à ce moment-là. Mais l'accident de Fukushima, j'ai vraiment eu le sentiment que quelque chose d'inexorable s'était passé. Et voilà ce que livre dit. Bon, mais c'est vrai que c'est pas un texte anti-nucléaire par essence. Ouais. Il dit juste la peur de l'accident. Il dit pas la peur des déchets, mais c'est aussi une peur que j'ai en me disant bon, finalement ces déchets, on va les enterrer, mais faut espérer quand même qu'on les enterre vraiment très très bien et que bon voilà. Il dit aussi dans ce livre finalement quand même la part de l'homme et finalement son peu d'action quand l'accident survient. Donc voilà, il dit cette crainte.
Il y a le corium qu'on est obligé d'inonder.
D'arroser en permanence, finalement on n'y arrive pas.
Et puis avec Tchernobyl, on a ces visions là
de chape.
Des liquidateurs là, ouais. Qui allaient s'exposer.
Et d'ailleurs, les Ouzbeks donc, qui interviennent dans ce livre ont été des liquidateurs de la centrale, effectivement.
Bien écoutez, je vais vous proposer de faire une première pause musicale avec une chanson à laquelle je vous ferai réagir, de Florent Marché, qui s'appelle « Le Dakota ».
On n'ira pas dans un abri du Dakota. On n'ira pas si c'est fini qu'a sonné l'heure. On n'ira pas dans un bunker, même si partout des incendies, partout la nuit aussi des cris. On n'ira pas vivre sous terre, le Dakota. On n'ira pas, même si dehors, dans la fumée, on n'a pas vu les eaux monter. Et quand bien même la maison brûle, la vie qui n'est qu'un crépuscule. On fera pas de résistance, on ira mourir en silence. Si c'est l'orage qui nous dégomme, gorgé de rage et d'uranium, on saura mieux brûler à deux.
D'auteur. Christophe Hyde.
Nous sommes de retour avec Laurent Petit-Mangin pour son roman Les Terres Animales. On a écouté une chanson extrêmement optimiste de Florent Marché qui termine sa chanson et qui la conclut comme « Laissons l'enfer aux milliardaires ». Alors, croyez-vous qu'Elon Musk, Jeff Bezos ou Bernard Arnault seraient restés dans la zone après l'accident ?
Non, je pense qu'ils seraient partis, mais beaucoup seraient partis. Enfin, je pense qu'il fallait avoir une raison très forte liée à la famille pour rester. Donc je pense que eux seraient partis, mais on serait tous partis, enfin, ouais. À de rares exceptions près.
Ouais. Voilà, c'était un petit clin d'œil. pessimiste, il faut bien le dire.
Bah, en fait, c'est à la fois c'est une chanson que je découvre, hein, mais c'est finalement elle a ce rapport de renoncement et en même temps de lutte qu'on retrouve un tout petit peu quand même qu'on retrouve dans le livre. Je veux dire, à la fois le fait de se dire on va pas aller se cacher, on va pas aller s'enterrer, puis en même temps bon ben il y a quand même une espèce d'acceptation de la situation. Bon, on retrouve un peu ça dans le bouquin, oui.
C'est vrai. Dernier livre, Les Terres Animales, mais vous avez été, en 2020, multi-récompensé par votre premier roman, C'est qu'il faut de nuit, qui a eu un succès critique et public vraiment exceptionnel. Il s'agissait d'un récit d'un père veuf qui élevait seul ses deux fils, adolescents et jeunes adultes. La mère était décédée pendant qu'il était au collège. Un livre magnifique, émouvant, où la tension dramatique initiale portait entre autres la découverte que faisait ce père cheminot, militant de la section socialiste, que son fils frayait avec des jeunes du Front National, voire même des identitaires, comme on dirait à présent. C'est un trio d'hommes qui étaient confrontés à un drame qui ébranlait leur vie. Et donc je voudrais revenir un peu sur ce livre, si vous l'acceptez, en me disant un peu comment c'est arrivé, à la fois ce livre, ce succès.
Ce livre, il a été écrit, bon j'ai quatre enfants, il a été écrit à contrario, je dirais. C'est-à-dire, bon j'ai quatre enfants bon, qui ont des parcours... parfait, quoi. Enfin, parfait. Je veux dire, très beau parcours où j'ai pas eu vraiment beaucoup à faire grand chose. Bon, ça m'a pas empêché de me projeter beaucoup dans ce qu'ils allaient faire. Et un jour, je me suis posé la question de me dire, mais si l'un ou plusieurs d'entre eux n'avaient justement pas eu ces parcours aussi linéaires, bon, qu'est-ce que tu aurais fait? Et en fait, le livre, il est vraiment... Ce qu'il faut de nuit est construit autour d'une question de est-ce que des enfants peuvent décevoir leurs parents? Et je me suis dit, bon, ben, si on répond oui à cette question, il y a matière à un livre. Il y a matière à écrire un texte. Et ce texte, donc, c'est effectivement un fils qui déçoit son père. Et ce qui m'intéressait dans cet ouvrage, c'est d'arriver à montrer que il y aurait eu de multiples temps dans le déroulé des faits où tout aurait pu s'arrêter et repartir, alors que le père, dès le démarrage, a le sentiment d'une situation irréversible. Inexorable, et tout mon propos dans ce livre, c'était de presque de lui faire la démonstration que non, la situation n'était pas si irréversible que ça, qu'il aurait pu, mais les faits et le temps ont fait que finalement, on arrive à une situation inexorable à la fin, dans une espèce de spirale terrible. Et donc voilà un peu le propos du livre. Donc c'est un livre autour de cette relation bon très très forte entre effectivement un père et ses deux fils.
C'est un récit qui est enraciné dans la Lorraine, dans un certain milieu. Donc j'ai dit que pour l'instant on a beaucoup parlé de vos livres, mais on peut parler aussi de l'auteur que vous êtes. Vous êtes
Je suis Lorrain, oui.
Et votre père était cheminot, c'est le cas du narrateur. Et on s'interroge parfois, en tout cas, sur la part autobiographique d'une œuvre quand un auteur... qui...
Je pense que, je l'ai déjà dit, mais l'aspect Lorrain du livre est venu de façon totalement incidente quand j'ai écrit la toute première page de ce livre, où je décris un terrain de foot. Je dis qu'il faut monter 15 km plus haut pour en trouver un plus beau, et en écrivant 15 km plus haut, je me dis, bah alors, ouf, et le Luxembourg arrive, parce que bon, le Luxembourg, dans mon souvenir d'enfance, c'était l'endroit où on allait faire nos excursions de fin d'année, Et j'en avais l'image d'un petit pays, d'un petit duché bien propre. Et évidemment, donc en logeant le Luxembourg, je logeais l'action de ce livre. Mais c'était pas un livre qui était... La Lorraine n'était pas préméditée dans l'écriture de ce livre. Au démarrage, je pensais pouvoir me passer de dire dans quel endroit ça se jouait. Bon... Je ne regrette absolument pas parce que finalement la Lorraine est un paysage qui correspond très bien au livre parce que c'est un paysage contrasté, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire que je vis actuellement en Picardie. Bon, la Picardie, en tout cas pour une grosse part, pourrait tout à fait, être le théâtre de cette histoire, mais ça pourrait se passer dans plein d'autres régions. Et l'aspect famille cheminot, évidemment que c'était une facilité, c'est-à-dire que ça me permettait d'avoir davantage de rapidité à camper ce père, mais je dirais que souvent, et je pense être je pense que souvent ce qu'on attribue d'autobiographie à des textes, finalement on loupe ce qui est réellement autobiographique. Et moi il y a forcément des aspects autobiographiques dans ce texte, mais c'est pas du tout ceux qu'on relève d'une manière générale, c'est-à-dire la SNCF, la Lorraine, ce type de choses. Ce sont des choses autres, bien plus ancrées, encore une fois, qui remontent peut-être plus à l'enfance, des choses comme ça.
Et ce premier roman, est-ce qu'il a été édité en 2020 quel âge avez-vous si je...
Ah là, j'ai 58 ans.
Voilà. Sans vouloir être désobligeant, mais...
j'ai pris le temps, voilà. Non, bien sûr. mais je dirais que l'écriture est venue quand même relativement tardivement, elle est venue dans un premier temps comme une lubie, comme un challenge que je me suis posé, mais au même titre que je m'étais préalablement posé des challenges en matière sportive, en fait. Mmh. Donc ça a été plutôt dans cet ordre d'esprit.
Et dans l'idée de devenir écrivain, en tout cas de publier.
Non, dans l'idée réellement d'écrire une histoire. Vraiment, je pense que j'ai abordé l'écriture de mes premiers textes comme réellement la possibilité d'aller au bout d'une histoire. Et après, évidemment, assez rapidement, quand vous avez écrit votre histoire, assez naturellement, je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui se disent non, c'est très bien comme ça. Mais vous avez envie de les voir publier, oui.
Et vous avez des premiers lecteurs?
Vous avez... Moi, mon épouse est ma première lectrice. En principe, c'est elle qui va lire les 30 premières pages de mes textes, qui va me faire stop ou encore. Si elle est intéressée, je continue. Et ça sera elle qui va lire en priorité le manuscrit.
Elle fait la juge de paix.
Et d'ailleurs, je pense qu'elle a la capacité de me dire les choses et donc je ne vais pas au-delà si le livre ne lui plaît pas.
Alors, on s'était rencontrés à un festival qui s'appelle Polar du Sud au mois d'octobre dernier. Et donc, je vais un peu traîner, essayer d'attraper des auteurs. Et donc, chacun est devant sa table à attendre qu'on vienne lui faire signer des livres, et alors sans vous espionner, je vous regardais de loin, et quand il y avait des moments de pause ou des moments là, vous étiez vraiment en train d'écrire sur un petit carnet de façon, alors c'était sûrement pas la liste des courses, mais alors sans savoir, sans trahir un secret de fabrication, l'écriture c'est quand, c'est comment, c'est...
Non, en fait, d'une manière générale, les festivals, je pense que c'est souvent quand même une grande école d'humilité. C'est-à-dire que, on est là devant sa petite pile de livres. Et c'est vrai que, ça peut être assez long comme exercice. Donc, j'ai sur moi un carnet. En l'occurrence, j'écrivais ce qui pourrait être un roman à venir. C'est assez rare que je fasse comme ça. En principe, j'ai un roman mieux formé en tête avant de me lancer dans l'écriture à proprement parler. Bon, là, il ne l'est pas encore complètement, mais c'est un roman qui me semble plus compliqué à écrire que les trois premiers. Donc, j'ai envie de tester des choses, et donc je teste des choses quand je suis en salon, que j'ai un peu de temps devant moi. Et comme le bruit ne me dérange absolument pas pour écrire, j'en profite pour écrire un peu, oui.
Écoutez, là, ça m'a vraiment impressionné. Enfin, c'est une totale anecdote, mais on dit souvent les mots sont les outils et le réel, c'est le matériau un petit peu imaginaire. Et puis, pour fonder une fiction, j'ai lu aussi votre deuxième livre, Ainsi Berlin. Alors là, on est ailleurs, c'est la guerre froide avec des gens du Parti communiste de RDA. Il y a des espions, il y a des agents doubles et dormants. Il a bien fallu y avoir de la documentation. Alors, est-ce que vous êtes un auteur qui a des plans, des fiches, des diagrammes? Parce que quand on lit le premier livre, on a l'impression d'une voix continue, et c'est comme si vous étiez possédé par la voix de ce cheminot qui parle de son fils, etc. Mais là, il a fallu construire...
Non, pour Ainsi Berlin, la seule documentation, honnêtement, que j'ai, ça a été un gros livre Taschen sur Berlin, où il y a deux, trois photographies de l'immédiate après-guerre, avec ces immeubles qui sont détruits, enfin, où parfois vous avez un pan qui reste comme ça.
C'est l'Allemagne des zéros.
C'est exactement, et je pense qu'il suffit de voir ces images pour pouvoir immédiatement imaginer quelle est la vie de ces gens et bâtir à partir de ça, se demander par exemple s'il peut encore avoir des sourires, s'il peut encore avoir un peu de joie dans ces décombres. Donc ça, c'est des paris qu'on fait en tant qu'auteur. Ce sont des paris sincères, c'est-à-dire on va l'écrire comme ça. Bon, c'est vrai qu'on n'y était pas, mais ce sont des paris qu'on fait en toute sincérité.
Vous connaissez Berlin ?
J'étais allé à Berlin à l'occasion d'un long week-end et j'étais passé de l'autre côté du mur, donc en RDA. Et en fait, je pense que mon écriture, elle est souvent... liées à des images comme ça très très fortes qui restent, des images qui n'ont pas besoin d'avoir été vécues pendant des heures et des heures. Je veux dire, Berlin-Est, je n'y ai passé que quelques heures seulement. Mais je veux dire, c'était une impression suffisamment forte des années après. Et d'ailleurs, de la même façon que pour ceux qu'il faut de nuit, les scènes de tribunal et de prison, dans les deux cas, j'avais été donner des cours de français en prison. J'avais pu assister à une première audience d'assises. Bon, je veux dire, ce sont des moments dans votre vie que vous ne pouvez pas oublier. Enfin, je veux dire, vraiment, et qui ne disparaîtront jamais, et qui ont une force propre. Et donc, sur lesquels vous pouvez écrire 30, 40 ans après. Enfin, je veux dire, sans qu'il y ait la moindre déperdition. Enfin,
c'est presque un moment fondateur, ça fonde quelque chose.
C'est effectivement un repère, que vous n'avez pas forcément d'ailleurs sollicité, qui est inscrit en tant que tel. Et donc, Berlin-Est, ça a été une des images repères comme ça qui m'ont aidé à écrire le livre.
Entendu. Mais écoutez, je vais vous proposer de faire une seconde pause musicale avec une chanson très connue de Daniel Guichard.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, et ouais, tant pis. dans son vieux par-dessus râpé. Il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu. Avec mon vieux, chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Parole d'auteur. Christophe Hein.
Nous sommes de retour avec Laurent Petit-Mangin pour son dernier livre, Les Terres Animales. J'ai choisi cette chanson connue de tous, hein, qui parle de la relation père-fils, puisqu'elle était au cœur de votre premier roman. Cette chanson est un peu tire-larme, il faut bien le dire, mais j'ai pensé que vous n'aviez pas peur des émotions fortes. D'ailleurs, le père, à un endroit dans ce qu'il faut de nuit, il dit la chiale m'est il quitte une pièce et il dit la chiale m'était montée aux yeux. Donc pour préparer cette émission, j'ai relu ce qu'il faut de nuit avec appréhension. Je pensais que je ne ressentirais pas une seconde fois l'immense émotion qui m'avait traversé dans la première lecture. Eh bien si, j'ai repleuré. Je me demandais alors comment fait-il. Si la chanson de Daniel Guichard est un peu trop cliché, parce que bon, c'est vrai, on se sent un peu pris en otage. Il y a chez vous un je ne sais quoi, et on ne se sent pas piégé, mais plutôt on a l'impression que nos larmes sont justes. Alors est-ce que vous... Comment on fait ? C'est le talent ? Est-ce que c'est beaucoup travaillé ? Est-ce que...
Non, je crois qu'il y a le souci de, d'écrire, encore une fois, d'écrire avec, avec une certaine, un certain équilibre. C'est-à-dire ne pas essayer de surjouer les choses. Essayer de dire la réalité telle qu'elle est. Prendre des... Parfois, je veux dire, effectivement, dans ce premier livre, la mère, par exemple, ne va pas survivre. Je veux dire, c'est vrai que c'est plus optimiste de dire que, on arrive à vaincre son cancer, mais la réalité des choses, c'est que souvent, on n'y arrive pas, quoi. Et ça n'empêche pas de vouloir et que chacun doit se battre là-dessus. La réalité des choses, elle est comme ça. Donc voilà, moi, mon approche dans l'écriture, c'est pas de faire de concessions, c'est-à-dire ça peut être de dire des moments joyeux, parce qu'il y en a quand même, mais de dire aussi qu'il y a des moments effectivement assez durs. Et je pense que c'est cette espèce de vue relativement réelle et à hauteur d'homme qui fait que... c'est-à-dire, je cherche pas à écrire de l'émotion. Je cherche à redonner mes émotions, mais pas à créer, pas à susciter de l'émotion. C'est-à-dire quand je vous disais tout à l'heure, pour ainsi Berlin, que cette image d'Allemagne de l'Est m'avait durablement marqué. Il y avait une espèce de double fascination pour cette Allemagne de l'Ouest et cette Allemagne de l'Est. Bon, j'essaie de retranscrire ça. Mais je n'essaie pas de créer de l'émotion. Je veux dire, je me contente de donner mon émotion à moi, en fait. Voilà.
Et surtout, ce que je trouve, vous captez, par exemple, dans le premier livre, vous écrivez les formules automatiques un peu qui sont creuses, là, entre les deux frères qui se réfugient derrière les mots « ouais, stylé », les « t'inquiète », ça ne change rien », les formules usées qu'on croit vides de sens et tout ça, mais qui, au fond, quand ils arrivent au bon moment et à bon escient, avec... transporte quelque chose de profond, parfois de poétique, même dans le non-dit. Et ça me fait penser aussi dans votre livre « Les terres animales », il y a un passage qui m'avait frappé, c'est celui-là. « Pourquoi rester ? Question interdite. On se contente de la circonvenir. Par quelques affirmations un peu débiles. C'est pas pire qu'ailleurs. Au moins, on est tranquille. Par des petites réassurances, comme si on était en villégiature. On n'est pas bien là ? Puis... quand il faut dégainer le lourd, maintenant qu'on a commencé. Ce « maintenant qu'on a commencé » résume l'espèce de pacte qui nous étreint. Il prévient tout délitement. Et j'ai trouvé, voilà, c'est très fort.
Mais en fait, les scènes que j'écris sont des scènes que je joue en tête et que je visualise bien avant, quelques jours avant l'écriture. Et que j'arrive à... entre guillemets, à peaufiner. C'est-à-dire que... et, alors ça, en plus, bon, c'est quand même assez pratique. C'est-à-dire que vous pouvez passer la tondeuse et réfléchir à la scène, quoi. Vous voyez, non, mais vraiment, je plaisante à peine...
Vous êtes fort en double tâche, je vous le dis, moi.
Je plaisante à peine en le disant. C'est-à-dire que, justement, typiquement, ce type de petites phrases comme ça, vous pouvez les faire sonner. Vous voyez, vous dire, laisser parler les deux frères, se dire, bon, bah, comment, quand ils vont arriver. Bon, après, en plus, bon, soyons objectifs, j'ai aussi donc, mes enfants bon, qui ont pu servir de matière à ça, voir comment ils interagissent les uns avec les autres. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire se dire, bon, bah, finalement, la scène, vous pouvez la faire sonner, la faire la visualiser, voir son éclairage, voir comment les personnages qui sont dans le champ de la scène interagissent entre eux. Et ça, si vous voulez, c'est une activité que vous pouvez faire en amont de l'écriture. Donc, c'est assez pratique. Et effectivement, je disais en passant la tondeuse, mais ça peut être en allant au travail, dans la voiture. Bon, c'est... Et ça évite quelque chose pour moi qui est horrible, qui est la page blanche. Enfin, c'est-à-dire que je, là, pour le coup, ne pas avoir anticipé et savoir ce que je vais écrire est très difficile pour moi. Mmh. Donc, je ne peux écrire que si j'ai déjà visualisé finalement une scène la scène que je vais écrire.
Et de cette visualisation au cinéma, parce que j'ai entendu dire, enfin en tout cas sur Internet, que votre premier livre... allait servir une adaptation cinématographique
Visiblement là, je pensais qu'il sortirait en 2024, parce qu'il a déjà été tourné, mais d'après ce que j'ai lu avant-hier, ça serait plutôt maintenant 2025. Donc c'est un film effectivement qui va s'appeler À la hauteur et qui est tiré de Ce qu'il faut de nuit avec.
Quelle aventure!
Oui, non, c'est bon. Après, je me rends compte de la force du cinéma, parce que bon, moi, je suis très impatient de le voir, ce film.
Ah, vous ne l'avez pas vu ?
Oui. Non, je ne l'ai pas vu du tout.
Ouais, parce que moi, je me disais, Jérémy, j'adore les seconds rôles, hein, pour tout c'est dire. Et ce Jérémy dans le livre.
Je ne sais pas qui le joue. Je connais les trois personnages principaux. Il y a Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, mais je ne connais pas qui joue les rôles secondaires. Et je ne sais pas d'ailleurs s'ils existent de la même façon dans le film que dans le livre. Donc je suis très impatient, mais en même temps, c'est absolument pas mon projet. C'est le projet des deux sœurs réalisatrices. Je leur fais toute confiance que la seule scène que j'ai vue, parce qu'elles m'ont invité sur le tournage, bon, je n'ai vu qu'une scène, et la scène, elle est remarquable.
D'accord.
Elle est d'un tact et d'une douceur et d'une beauté. Elle est, donc j'espère qu'elle sera dans le film. Bon, et je me suis dit, en voyant cette scène, quand même, bon... Bon, j'étais déjà très confiant avant, je veux dire, avec un tel trio d'acteurs, mais là ça m'a convaincu que bon, le film pouvait quand même être très très beau.
Bon, on l'attend avec impatience.
Mais donc je ne sais pas si ce sera 2024 ou 2025.
Entendu. Bon, on aurait pu parler de plein de choses, on aurait pu parler aussi du FC Metz. Les Grenats, je ne sais pas si vous êtes...
Il vaut peut-être mieux ne pas en parler en ce moment, c'est quand même... Mais c'est, bon,
Toulouse est 15e et le FC Metz est 14e.
Il faut assumer...
Ou l'inverse.
Voilà, c'est fidélité et je reste fidèle au FC Metz, quoi qu'il advienne.
Très bien. Roman familial pour votre premier, en tout cas social, politique et plus encore. Un second, c'était un roman d'amour et d'espionnage. Le troisième, catastrophe et survie en milieu hostile. Et le suivant?
Comme j'ai dit, le suivant, il est assez compliqué. Je pense que il traitera de la, à nouveau, de la déception et de la peur. En fait, de cette espèce de peur terrible de se dire qu'est-ce qu'on laisse. Donc voilà, je pense que ça sera autour de ça.
Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté de venir passer cette heure avec nous, Laurent Petit-Mangin. Je conseille à nos auditeurs et auditrices la lecture de votre dernier roman, Les Terres Animales, ou la relecture de Ce qu'il faut de nuit avant sa sortie en salle. Ces livres sont parus aux éditions La Manufacture de Livres. Je remercie Christophe Aubry qui va être toujours à la bonne marche de cette émission. La réécoute de cette émission est possible sur le site de Radio Présence et sur toutes les bonnes plateformes, alors faites-le savoir.